Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que dans les aventures qui va suivre, vous êtes déjà.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est dans le mètre. Là, on le mettre.
On ne connaît pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
La révolution, par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues franges,
hein ? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
C'est cela.
C'est dans le mètre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis, un petit peu de rouge. Et puis, un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis, à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de poste. Tu dis tant que je les pas.
Aujourd'hui, mercredi 14 juillet 2021, c'est la Sainte Zone de Confort. Sainte Zone de Confort est la sainte patronne des états de sécurité intérieure rassurants, sans incertitude et sans surprise. Chiant quoi. Ils sont peu nombreux les courageux à oser se risquer à sortir de leur sainte zone de confort. Pétri de certitude et de suffisance, c'est dans un environnement ouaté, bordé de tous les côtés, lisse et bien poncé qu'ils évoluent. Ni inquiétude, ni angoisse ne viennent perturber le cours d'une vie sans aspérité qu'ils suivent sagement. Invariablement, ils se succèdent et débitent jour après jour leur litanie sans relief, leur petit train-train quotidien de réformes indispensables, les charges trop lourdes qui pèsent sur les frêles épaules des entrepreneurs, comme hier, l'impôt sur les sociétés qui est trop élevé, comme avant-hier, l'âge de la retraite qui est bien trop avancé, comme d'hab, les taxes qui sont bien trop nombreuses, les salaires qui crèvent le plafond, ça va déjà, le code du travail qui est bien trop épais, blablabla, les avantages des salariés qui sont bien trop avantageux. Et puis l'ISF qui pénalise, les étrangers qui dévalisent, la société qui se racialise, la sécu qui socialise, les fonctionnaires qui privilégisent, les enseignants qui fainéantisent, les universitaires qui islamo-gauchisent, routine. la dissolution des valeurs, le péril boucher, les cégétistes, le vote utile, les bandes de jeunes, les musulmans, les cheminots, la police et ses bavures, les LGBTIYZ, les gilets jaunes, les infirmières, les privatisations, la baguette pas trop cuite, le pass sanitaire, le vaccin et les antivax, le désert de l'habitude, rien qui dépasse. Chiant quoi. Heureusement qu'il existe encore quelques irréductibles qui osent prendre des risques, qui savent sortir de leur sainte zone de confort pour mieux la canoniser, qui n'ont pas peur du changement, qui bousculent la routine, qui ont bien compris qu'il faut changer pour que rien ne change, que la chemise ouverte et les souliers pointus, c'est quand même bien plus classe que la faucille et le marteau, qu'on peut être communiste et moderne, que la révolution s'est terminée, que la lutte des classes s'est dépassée, que le rouge c'est moins bien que le rosé, c'est ne pas laisser les thématiques de droite à la droite, c'est accepter de manifester avec les verts, les socialopes, les fachos, les flics, et surtout, c'est avoir le courage politique d'avoir enfin un parti communiste de droite. Bien joué Fabien. Aujourd'hui, mercredi 14 juillet, le soleil s'est levé, glaireux à souhait avec des fils dans l'amidon. Il va se coucher, brillant d'un jaune vert pâle et mal nourri. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pas chiche de Radio Campus, le campuslille.com et le DAB+. La Palestine a-t-elle encore un avenir ? L'historien Dominique Vidal donne la parole à Leïla Chaïd, ancienne ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union Européenne à Bruxelles. Ça se passait à l'IREMU, l'Institut de Recherche et d'Études de Méditerranée et Moyen-Orient. C'était en mars 2021. C'est donc un long quart d'heure en Palestine qu'on vous propose ce soir, et c'est l'heure de le mettre.
Glaireuse à souhait, avec des fils dans l'amidon, se demandant s'il tombera du mur ou non, le crachat au soleil. C'est dire son œil vitreux de borgne où la haine croupit, brillant d'un jaune vert pâle et mal nourri sous la canicule chavira. D'où viens-tu, pèlerin gélatineux et froid? De quelle gorge obscure as-tu quitté l'emploi pour te marier à cette pierre, d'un gosier mal vissé ou d'un épituiteux, d'un palais distingué, d'un poumon besogneux ou d'une lampe. Avant que de finir au plat, sur ce granit, étais-tu préposé au Qatar, au prurite, ou bien à résoudre une quinte? Es-tu le doute du rêveur, l'orgueil du fat, la solution d'un douloureux échec et mat, ou l'exutoire des fargnantes? Agacé par l'insecte au ventre crevant d'eux, décoloré, suintant, le crachat comateux sur le trottoir, enfin, des bombes. tandis qu'agonisant sous des pieds indistincts, à l'aise, enfin chez lui, il me dit l'air hautain. Je suis la conscience du monde.
Un quart d'heure en Palestine.
Merci infiniment en tout cas à Leïla Chaïd d'avoir accepté cette invitation. Leïla se fait un peu rare depuis qu'elle a pris sa retraite de la vie diplomatique. Après une longue carrière que je résume très vite, elle a été nommée représentante de l'OLP en Irlande en 1989. L'année suivante, elle devient représentante aux Pays-Bas, puis ensuite au Danemark. De 1994 à 2005, elle sera déléguée de Palestine en France. Et enfin, de 2005 à 2015, ambassadrice auprès de l'Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg. J'ajoute, pour finir ce très, très, très bref portrait, que Leïla Chaïd n'a jamais boudé les médias. Elle a participé à d'innombrables conférences-débats à la base, chez nous, en France, parmi lesquelles une quarantaine lors de la tournée des villes et des banlieues, de 2002 à 2005, avec Michel Warchawski et votre serviteur. Et c'est de cette expérience formidable, en tout cas, qu'est né le livre « Les banlieues, le Proche-Orient et nous », dont elle est donc la co-auteure. Alors, on serait évidemment intéressé, Leïla, on serait intéressé à connaître ton analyse du vote des Israéliens, qui ont élu quand même la Knesset la plus à droite de l'histoire. Comment expliquer ce glissement accentué? Et puis, sachant que pour danser le tango, il faut être deux, cette nouvelle radicalisation n'appelle-t-elle pas une évolution de la stratégie palestinienne? Et au fond, est-ce que ce n'est pas ce dilemme-là qui explique sans doute du côté palestinien des divisions qui marquent la préparation des prochaines élections, non seulement entre le Fatah et le Hamas, mais au sein même du Fatah? Est-ce que tout ça ne risque pas de remettre en cause, on le dit ici ou là, la tenue même de ces élections? Et pourtant, je veux finir sur ce mot-là, parce que ça me paraît important, pour faire face à une situation effectivement inquiétante, les Palestiniens ne peuvent-ils pas s'appuyer sur des acquis solides? Leur reconnaissance internationale comme État de Palestine, y compris à l'ONU, à la Cour pénale internationale, l'érosion de l'image d'Israël dans l'opinion mondiale, très nette, la défaite de Donald Trump, qui a été le président américain le plus pro-israélien de l'histoire, je crois. Et puis, très récemment, cette décision absolument historique de la Cour pénale internationale d'enquêter sur les crimes de guerre commis par Israël dans les territoires occupés, en particulier à Gaza.
Merci, merci Domi. C'est moi qui voudrais remercier l'IREMO et toi en particulier, et Joanne, qui m'a beaucoup aidé à mettre en place à partir de mon petit hameau du Gard, cette connexion, de faire le travail que vous faites. Alors voilà, vous m'avez un peu titillé avec un titre qui s'appelle « La Palestine a-t-elle un avenir ?» Et comme je suis quand même très palestinienne, j'ai sursauté au début. Après, je dis, mais effectivement, les amis de la Palestine, ils sont sûrement nombreux parmi les gens qui nous écoutent, comme il y a sûrement beaucoup de Palestiniens francophones, ont le droit de s'opposer, étant donné quand même que sur le plan diplomatique, sur le plan de l'occupation militaire, sur le plan du nombre de victimes tuées, sur le plan du nombre de maisons détruites, sur le nombre de prisonniers, ça ne va pas mieux. Mais je dirais qu'on a quelque chose en commun, nous et les Israéliens, pas seulement les élections. Nous n'avons que 53 ans d'âge. Israël n'a que 73 ans et notre Nakba, notre disparition, nous, comme nation habitant sur son territoire national, même si on n'avait pas d'État, ne dure que depuis 73 ans. Donc, il ne faut pas trop coller à l'actualité, parce que lorsqu'on colle à l'actualité, on est déprimé. Parce qu'on voit échec après échec, et on voit que les gouvernements du monde sont de plus en plus lâches, à commencer par l'Union européenne, que les gouvernements arabes sont de plus en plus traîtres, comme on a vu avec la normalisation. Mais si on regarde et Israël et la Palestine sur le temps long, ça veut dire sur le temps historique, toi qui es historien, on finit, moi personnellement, je finis par accepter qu'il y a des étapes dans une histoire. Et je suis persuadée que nous sommes aujourd'hui, nous passons d'une étape à une autre étape. Nous avons eu des étapes qui auraient pu paraître désespérées avant la création de l'État d'Israël. Depuis 1920, les Palestiniens luttent. J'ai beaucoup de gens de ma famille qui ont participé à cette lutte du temps du mandat britannique. Puis nous avons, après 1948 et la Nakba, on nous appelait des réfugiés arabes. Puis on a eu la bonne idée de mener une lutte de libération nationale, armée et politique. On a fondé une OLP, un organisme qui représente toutes les sensibilités idéologiques palestiniennes. Et puis nous avons essayé un accord de paix qui s'appelle Oslo, qui s'est avéré être un échec total, pas seulement à cause de nous, mais surtout à cause des Israéliens, et surtout à cause du refus de la communauté internationale, en particulier des Américains et de l'Union européenne et des États arabes, de le mettre en œuvre. Oslo n'a même pas été mis en œuvre, parce que pour le mettre en œuvre, il fallait sanctionner l'arrivée au pouvoir de toute la droite israélienne qui a combattu Oslo. Et donc, je dirais que si on regarde l'histoire des élections palestiniennes et israéliennes, l'histoire du présent palestinien, et qu'on se demande est-ce que la Palestine, mais est-ce qu'Israël a un avenir ? À vrai dire, lorsque j'ai suivi de très près les élections israéliennes, je me suis demandé, Dominique, est-ce qu'Israël a un avenir ? Parce que lorsque tu vois que c'est la quatrième élection en l'espace de 2 ans, que la majorité est à plus 1 et moins 1, que la forme de gouvernement qu'ils sont obligés de mettre en place parce que M. Netanyahou veut échapper aux tribunaux et aux 3 procès qu'il a, on croit rêver qu'un homme peut prendre en otage une nation entière parce que monsieur a peur d'aller devant les tribunaux parce qu'il sera condamné. Et je trouve que c'est triste parce que, bien sûr que je combats l'occupation, que je combats la destruction de la Palestine, les nettoyages ethniques, mais je reconnais à l'État d'Israël des moments plus glorieux que celui-là, en particulier depuis que le Likoud est arrivé au pouvoir et surtout depuis que les religieux sont arrivés au pouvoir. Et donc, je pense que nous traversons tous les deux, pour des raisons différentes, une période vraiment existentielle où votre titre a vraiment une bonne raison d'être. Alors, je dirais que pour Israël, je n'étais pas surprise du résultat des élections. Pourquoi ? Parce que, travaillant beaucoup avec tous mes amis comme toi qui m'ont appris à bien lire le développement de la société israélienne, avec tous nos amis israéliens, j'étais très préoccupée depuis le vote sur la loi de l'État-nation, et je l'ai dit dans une interview, je dis les masques sont tombés.
Juillet 2018, hein,
juillet 2018, Alexandra Tvartkov me téléphone, elle me dit « qu'est-ce que tu penses de cette loi ?» Je lui dis « je m'en réjouis parce qu'elle fait tomber les masques ». Après, elle sursaute parce que le mot « réjouis » la choque. Je lui dis « on ne peut plus supporter l'hypocrisie occidentale, européenne et américaine ». Maintenant, au moins, c'est clair et net, c'est un état d'apartheid. C'est un état d'apartheid, pas seulement pour les Palestiniens dans les territoires occupés, c'est un état d'apartheid pour les citoyens israéliens non-juifs.
Et donc, si tu permets,
je
Leïla,
voyais venir…
Leïla, si tu permets, oui. Juste un mot pour qu'on comprenne bien. Ce n'est pas un gros mot, apartheid. C'est l'article 1 de la loi qui dit « Seul le peuple juif a droit à l'autodétermination ». Donc, les 20% autres que juifs n'ont pas droit à l'autodétermination. C'est l'apartheid.
Donc, moi, je dirais que après cette loi, qui a quand même été très grave et votée par une majorité, malheureusement, sont venus d'autres projets qui sont la destruction systématique de ce que moi, je trouvais admirable un peu en Israël. Ça veut dire la présence d'une Cour suprême qui a souvent eu le courage de contrecarrer des décisions de la Knesset, quelquefois en faveur des Palestiniens, de la loi sur la liberté d'expression, etc., etc., sur ce qui concerne les citoyens israéliens, Israël a beaucoup de qualités, sauf qu'elle ne les a plus aujourd'hui avec le genre de gouvernement que M. Netanyahou dirige depuis maintenant 15 ans, 12 les derniers et 3 avant. Et je ne vois pas assez de réactions en Israël. Ça veut dire que je m'attendais qu'après la loi sur l'État-nation, On va voir des manifestations comme on en a vu après les massacres de Sabra et Shatila, 400 000 Israéliens dans la rue. Eh bien non, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas seulement au niveau des institutions étatiques et gouvernementales. Il y a un changement dans la société israélienne qui est très grave. Ça veut dire ce schisme tellement profond entre les laïcs et les religieux. Je ne pense qu'on ne peut plus dire que le schisme est entre Arabes et Israéliens. Avant, on disait qu'il y a un schisme entre les Juifs et les Arabes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'en Israël, on les nomme, les Juifs et les Arabes. Maintenant, on ne peut plus dire que c'est ça, puisque maintenant, les religieux racistes extrémistes d'extrême droite veulent se rallier à un parti islamiste de M. Mansour Abbas de Galilée contre les laïcs juifs, les laïcs musulmans et chrétiens. Ce qui veut dire que les choses s'éclaircissent au niveau de l'affrontement. L'affrontement, il est aujourd'hui entre laïcs. Je ne suis pas contre les gens qui sont pratiquants. Je ne suis pas pratiquante moi-même, mais je respecte les pratiquants de toutes les religions, juives, chrétiennes et musulmanes. Mais aujourd'hui, ça, ce ne sont pas des pratiquants. Monsieur Kahana n'est pas un pratiquant, c'est un terroriste. Et il est entré à la Knesset avec l'encouragement et le soutien de Netanyahou. On croit rêver, mais c'est dire combien les mutations de cette société israélienne peuvent mener à quelque chose qui est tragique avant tout pour les Israéliens et bien sûr, comme nous dépendons beaucoup de la puissance occupante, qui est tragique pour nous. Et donc, je dirais que légitimer ces mouvements, ils ont le beau rôle d'attaquer les pays arabes, les Israéliens, et de se faire appeler la seule démocratie. Je veux savoir, est-ce qu'ils vont avoir le culot et la chutzpah, ça veut dire l'arrogance, de parler encore de seule démocratie au Moyen-Orient? J'aimerais bien voir les États qui continuent à appeler Israël la seule démocratie. Je voudrais bien savoir comment ils appellent une démocratie où il y a un groupe comme Kahana à l'intérieur du gouvernement. Et donc, en tout cas, encore une fois, ce qui est bien dans cette histoire de la possibilité d'une alliance du parti Ram qui représente donc les islamistes, les frères musulmans israéliens arabes, comment ça va se terminer? Est-ce qu'ils vont aller avec Netanyahou et ses propositions? Ils vont aller avec Lapid? Je crois qu'ils sont en train de négocier encore, n'est-ce pas?
Tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure et je ne voudrais pas qu'on l'oublie. C'est qu'il y a dans le tréfonds, si on peut dire, de l'âme israélienne, un doute sur l'avenir de l'État. Et il y a un chiffre qu'on ne donne jamais, et il est très important. Sur 9 millions de citoyens israéliens, sur 7 millions de citoyens juifs, il y a près d'un million qui ont quitté le pays, qui vivent ailleurs.
On ne le reconnaît jamais.
On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont quitté? Est-ce qu'ils se sont mariés? Est-ce qu'ils font des études? Est-ce qu'ils font du business? OK. Mais en tout cas, ils ne sont plus là. Il y en a, par exemple, 100 000 à Berlin. C'est-à-dire 100 000 Israéliens ont choisi de s'installer dans l'ancienne capitale du Reich, quand même.
Demander la nationalité allemande. Certains demander leur ancienne nationalité ou celle de leurs parents.
Imaginez qu'il y ait actuellement 15 millions de Français qui aient quitté la France par un doute profond sur l'avenir. Est-ce qu'on peut élever nos enfants là? Est-ce qu'on peut continuer à croire? Et ça, ça montre qu'au-delà des jeux politiciens, il y a un doute profond. Oui. Bien sûr qu'il y a un doute chez les Palestiniens. Est-ce qu'on va réussir notre projet national? Mais il y a aussi un doute israélien. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Et en fait, c'est ça que je voulais t'entendre dire, c'est que la clé pour les Israéliens de leur avenir, c'est qu'il y ait la satisfaction des droits palestiniens.
Oui, tout à fait. Moi, deux choses. J'ai toujours dit que nous, on était un peu comme des frères siamois qui sont rattachés par un membre de leur corps lorsqu'ils naissent et qui essayent de se séparer. Mais même lorsqu'on les sépare à l'hôpital, ils restent très unis par le fait qu'ils viennent du même utérus. Et donc, je dis que, bien sûr, il n'y a pas de solution palestinienne sans une solution israélienne et vice-versa. Mais je pense que jamais la situation n'a atteint un tel degré de désespoir profond sur le plan local, en Palestine et en Israël. Après, on parlera du reste. Mais je te dirais que ce que tu viens de dire, je n'avais pas les chiffres. Un million, c'est énorme. Mais je sais que beaucoup, beaucoup de jeunes partent parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'avenir en Israël, parce que c'est les enfants de mes amis. Parce que la première chose que tu demandes à un ami lorsque tu l'appelles au téléphone pour lui dire bonne fête, bonne Pessah ou n'importe quelle autre fête, et tu lui dis alors comment va un tel ta fille, ton fils, et ils me disent qu'ils sont partis. Partis, ça veut dire s'installer au Canada, aux États-Unis. Et donc, ils me disent que beaucoup redemandent d'ailleurs des papiers et beaucoup de pays donnent la double nationalité. Tu me disais hier que M. Pollard, non content d'avoir été un espion pour Israël en étant citoyen américain, revendique la double nationalité israélo-américaine.
C'est la double loyauté.
Même Pollard.
La double loyauté.
La double nationalité.
Ouais. Il regrette que les Juifs américains soient trop américains.
Bon, alors, maintenant, revenons à nos moutons. Ça veut dire aux élections palestiniennes. Moi, je pense personnellement, et ça, c'est mon opinion, je ne suis plus ni ambassadeur, ni officiel, et donc j'ai toute la liberté de représenter ce que je sens. Et ce que je sens n'est pas le résultat de recherches académiques ou universitaires seulement, non seulement de mes connaissances de la société palestinienne, de la diaspora et des territoires occupés, mais aussi de ma pratique diplomatique lorsque j'étais pendant 25 ans représentante de l'OLP. Je ne vois pas pourquoi on devrait avoir des élections palestiniennes, puisque nous reconnaissons tous maintenant, inclus le comité central de l'OLP, que Oslo est un échec. Échec parce que Israël ne veut pas le mettre en œuvre. Israël a démoli la signature des accords d'Oslo le jour où la droite est arrivée au pouvoir. Et la droite est arrivée au pouvoir, permettez-moi de le dire, avec Ehud Barak. Pas avec ni Sharon ni Netanyahu, parce que Ehud Barak, la première chose qu'il a fait, c'est saper les accords d'Oslo contre lesquels il avait voté. Donc, elle commence avec un gars qui est supposé être de gauche. Mais puisque nous reconnaissons tous, et qu'on a même parlé de suspendre la coopération sécuritaire, qu'Israël rentre dans n'importe quelle ville de zone A, qu'elle a déjà annexé toute la zone C, pourquoi devrions-nous continuer à donner l'illusion aux citoyens palestiniens qu'il y a des élections libres sous l'occupation? Pourquoi? Parce que, à mon avis, nous avons remplacé le mouvement national de libération par un genre d'appareil qui s'appelle l'appareil de l'autorité palestinienne, dont la hantise est de survivre à n'importe quel prix. Ils veulent retrouver leur siège. Alors, dans quelles conditions? Pourquoi allons-nous élire un conseil législatif palestinien? Est-ce que vraiment il fait des lois? Est-ce qu'il peut mettre en œuvre les lois qu'il vote? Mais non! On a essayé, ça fait combien d'années? Ça fait 29 ans! Est-ce qu'il nous faut encore du temps pour réaliser que ça ne sert à rien d'avoir un Parlement sous l'occupation puisqu'il n'y a plus d'accord d'Oslo? Imaginez-vous qu'ils ont le culot de nous dire « vaccinez-vous puisque le secteur santé revient à l'autorité » comme si respectaient eux les accords d'Oslo. Et donc moi je pense que ces élections n'avaient aucun sens. Et que moi, mes amis qui m'en ont parlé, je leur ai tout de suite dit, mais écoutez, on vous leurre, c'est pas vraiment des élections, puisqu'on sait, c'est pas seulement parce qu'il n'y aura pas d'élections à Jérusalem-Est, c'est parce que l'autorité n'a pas vraiment les moyens de laisser libre l'expression politique. Regardez ce qui se passe au niveau de la répression des journalistes, des militants politiques, avant les élections déjà. Si quelqu'un fait sur Zoom ou sur le réseau social un commentaire qui ne plaît pas à la police palestinienne, le lendemain, il est en prison. C'est inadmissible. Comment vous allez faire des élections si vous ne permettez même pas aux citoyens de s'exprimer sur un réseau social, ni à un journaliste de publier l'article qu'il veut? Et donc, je dirais que le principe de l'élection, je n'y crois pas et je crois que c'est, excusez le terme, une foutaise. Tant qu'on est dans la situation qui est encore plus d'occupation qu'avant, parce qu'on a un régime beaucoup plus violent et beaucoup plus dangereux côté israélien. On peut encore dire que Rabin et avant Rabin, on avait peut-être des gens qui étaient prêts à un compromis, mais pas ceux qui sont là au pouvoir aujourd'hui. Mais je dirais, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent le savent, ce que l'autorité palestinienne a fait depuis qu'elle a annoncé les élections. Elle a, par décret présidentiel, puisqu'on n'a pas de parlement, par décret présidentiel, décidé l'âge des candidats, ça veut dire il faut qu'ils aient plus de 28 ans. Deux, il faut qu'ils payent 20 000 $ s'ils veulent se présenter. Trois, s'ils sont des fonctionnaires de l'autorité, ils doivent démissionner. Et je veux dire, lorsque déjà il y a toutes ces lois par décret, qu'est-ce que ça laisse comme liberté aux citoyens qui veulent, citoyens ou citoyennes d'ailleurs, se présenter comme candidats?
Est-ce qu'il y a, Leïla, une loi, un décret plutôt, qui interdit aux prisonniers palestiniens d'être candidats? Parce qu'on parle beaucoup d'un prisonnier palestinien.
Ah oui, bien, c'est oui. Alors, comme c'est prisonnier, comme c'est prisonnier, je crois qu'il n'oserait pas. Je crois qu'il n'oserait pas. Si l'autorité osait, qu'il y aurait un vrai problème à Ramallah autour de la présidence de l'autorité palestinienne. Pas seulement à cause de Marwan, mais parce que l'honneur de la Palestine, ce sont ses prisonniers. L'autre honneur étant ses martyrs. Donc, si on touche aux martyrs, aux prisonniers, ça reste la seule chose sacro-sainte en Palestine, c'est ça. S'ils osent tout ça. Mais comme les prisonniers sont en fait en Israël, il faut se donner Marwan ou un autre de se présenter. Mais je dirais qu'au début, lorsqu'on a annoncé les élections, j'étais très surprise parce qu'à travers les réseaux sociaux et les médias, j'ai vu que les Palestiniens étaient excités. Alors, j'ai téléphoné pour demander à mes amis, mais ils prennent au sérieux ces élections parce que moi, je ne les prends pas au sérieux. La réponse était, la situation était tellement triste avant. Ça va tellement mal à tous les niveaux. Avec Trump et son deal of the century, son accord du siècle, avec la normalisation des pays arabes sans aucune contrepartie pour les Palestiniens, les gens étaient très abattus. Soudain, l'idée d'élection, elle a donné un peu le sentiment aux gens qu'ils pouvaient de nouveau discuter politique, parce qu'ils ne discutaient plus politique, ils ne discutaient que comment survivre au corona, au chômage, etc. Et donc, ça, il y a eu un début d'excitation, mais malheureusement, avec les pratiques non démocratiques de l'autorité, très vite, les gens ont été très désabusés en disant il y a vraiment un accord entre Hamas et Fatah pour se diviser les sièges à venir et ce n'est pas des vraies élections. Maintenant, il n'y a même plus d'accord entre Fatah et Hamas, puisque ni la base de Hamas ne veut un accord avec Fatah, ni la base de Fatah veut un accord avec le Hamas. Et donc, on se retrouve, comme tu as dit, avec d'un côté un parti qui est le Hamas, de l'autre côté un parti qui s'appelle Fatah, qui est puissant, mais qui est divisé en 3 ou 4 ou même 5 listes. Demain, nous sommes le 31, demain, c'est la dernière date pour annoncer les listes. On n'a pas encore annoncé, donc jusqu'au dernier moment, mais nous savons déjà qu'il y a au moins 3 listes de Fatah. Il y a une liste de l'autorité palestinienne officielle, ça veut dire de Mahmoud Abbas. Il y a une liste qu'a lancée Nasser El-Kidwa, qui est donc l'ancien ambassadeur aux Nations Unies, membre du comité central du Fatah, et par ailleurs…
Et neveu d'Arafat. Et neveu d'Arafat, oui.
Oui, c'est le neveu mais je n'aime pas commencer par neveu d'Arafat.
Non, bien sûr.
Ça, c'est la dernière chose, parce que lui, il a réellement contribué à ce mouvement national de manière très positive. Il est beaucoup plus que le neveu d'Yasser Arafat. Il est aussi un citoyen qui a le droit d'être candidat et qui a eu le courage de le dire à Abbas, parce qu'il savait très bien qu'Abbas ne le mettrait pas sur la liste officielle. Et c'est celui qui a le plus pressé Marwan Barghouti à être le chef de sa liste. Il a demandé à Marwan Barghouti d'être le président de la liste que lui maintenant dirige, avant qu'il ne la forme d'ailleurs, en lui disant « tu seras le plus légitime ». Et personnellement, j'ai signé une pétition demandant à Marwan de se présenter comme candidat pour la présidence de l'autorité, parce que je pense que son statut de prisonnier politique est magnifique sur le plan symbolique de ce que la nation palestinienne. Comme je vous dis que pour moi, c'est des élections qui n'en sont pas vraiment une parce qu'elles ne sont pas libres, que ce soit un prisonnier politique qui dirige la liste pour laquelle j'aurais voté, Marwan Barghouti est très bien placé. Sauf que Marwan n'a pas encore décidé s'il veut se présenter.
Thank you. Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Juste un mot, Leïla. Je comprends ce que tu dis et je me garderai bien de porter une opinion. Je ne suis pas palestinien, ce n'est pas mon affaire de dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais j'ai eu l'impression, en suivant les choses, moins bien que toi, mais quand même en les suivant, qu'il y avait derrière l'idée d'une liste présidée, conduite par Marwan Barghouti, quelque chose qui va bien au-delà de cette élection, qui était à la fois le refus de la politique israélienne d'annexion, le refus d'une prise du pouvoir du Hamas en Cisjordanie et la régénérescence du Fatah, le rajeunissement de l'équipe dirigeante de l'OLP. C'est-à-dire, ça avait de quoi exciter, comme tu dis, beaucoup de jeunes palestiniens.
Mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Marwan Barghouti n'a pas répondu, malheureusement, à la demande de Nasser El-Kidwa de faire une liste différente de la liste officielle du Fatah. C'est bien pour ça que moi, j'ai signé une pétition demandant à Marwan Barghouti, parce que je suis entièrement d'accord que symboliquement, il serait peut-être la seule chose à laquelle j'attribuerais un sens dans ces élections, c'est que ce soit un prisonnier politique, et en particulier Marwan Barghouti, qui est la tête de liste. Sauf que pour le faire, il faut qu'il affronte Mahmoud Abbas, parce que Mahmoud Abbas a une autre liste, avec comme président lui-même. Il est le président, il est le seul candidat pour les élections présidentielles de juillet. Et donc, Marwan ne veut pas se présenter comme député, il veut se présenter comme chef de file, en tout cas, qui deviendra peut-être président s'il est élu. Et pour cela, il faut qu'il prenne la décision de couper avec l'autorité. Moi, je pense que le Fatah, je ne vais pas parler de la troisième liste, hein. Il y a une troisième liste, qui est une liste qui est soutenue de loin par Mohamed Dahlan et tout l'argent qu'il a des Émirats arabes, lesquels Émirats sont devenus le meilleur ami d'Israël aujourd'hui. Et donc, je pense réellement que les élections sont mal parties. D'ailleurs, en fait, je pense qu'elles n'auront pas lieu. Je pense qu'elles n'auront pas lieu principalement à cause de cet éclatement. Ça veut dire que si elles ont lieu, si Abbas décide qu'elles doivent avoir lieu, c'est un suicide collectif parce que avec déjà trois listes, peut-être quatre demain ou cinq, parce que personne ne peut empêcher les gens de faire des listes. C'est comme ça qu'on a perdu en 2006 d'ailleurs, parce qu'on avait trop de listes de Fatah. Il y a des Fatah officieux, officiels. Je pense réellement qu'elles n'auront pas lieu parce que si elles ont lieu, ça va être un raz-de-marée du Hamas, qui est un régime plus totalitaire, plus autoritaire, qui va imposer à tous ses militants comment voter. Le Fatah est une mouvance qui a toujours été, lorsque j'appartenais à ce mouvement, libre, démocratique, plein de vitalité, ouvert de débat. Ce n'est plus le cas, malheureusement. Et donc, je pense qu'elles n'auront pas lieu, surtout que je ne vois pas le gouvernement israélien actuel qui vient d'être élu, même s'il va à de nouvelles élections, permettre des élections à Jérusalem-Est. Or, c'est encore une fois comme l'histoire des prisonniers, celui qui fera des élections sans la participation des citoyens de Jérusalem-Est, il perd sa légitimité. Et je ne vois pas ce gouvernement israélien permettant, même en allant poster à la poste son bulletin, permettre des élections à Jérusalem-Est.
Ce que tu as dit tout à l'heure à chacun d'entre nous, à propos des élections, du sens des élections, ça m'a fait penser à ce que Charles Anderlin nous raconte chaque fois qu'on lui amène un groupe. Ça fait des années qu'il dit ça, hein, on peut lui reconnaître la continuité. Il dit, mais l'autorité palestinienne, elle doit rendre les clés. C'est fini, c'est une illusion, il faut casser l'illusion. Et lui prétend, et là j'ai un doute, que s'il n'y a plus d'autorité palestinienne, les Israéliens vont, philanthropes comme ils sont, s'occuper du sort des Palestiniens.
Tu parles.
Que penses-tu de cette idée ? Parce que c'est une vieille idée qu'on entend, mais d'une certaine manière, ce que tu as dit va dans le même sens. C'est-à-dire que l'autorité.
Non, pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout. J'ai dit exactement le contraire. Puisque j'ai dit que la seule raison pour laquelle l'autorité organise les élections, c'est pour se perpétuer.
Voilà.
Si elle était lucide et qu'elle disait, comme moi je dis, moi, personnellement, modestement, comme citoyenne, que ces élections faisant partie de tous les accords d'Oslo n'ont plus de sens puisque les accords d'Oslo sont morts et enterrés, elle n'organiserait pas les élections. Elle dira, je suis de fait un gouvernement d'affaires courantes, je continue à m'occuper de la vie des gens au quotidien, mais je change de stratégie parce que je reconnais qu'Oslo est mort. Or, ils ne reconnaissent pas. C'est pour ça qu'ils font des élections. Non, moi, je suis persuadée. Je reviens à l'histoire de l'histoire longue. Il y a des étapes. Ça ne veut rien dire qu'on va, je ne sais pas quoi, annuler l'autorité, dissoudre l'autorité. Depuis le début, j'ai toujours dit que c'était ridicule. C'est des étapes historiques. L'autorité palestinienne, c'était la période. D'ailleurs, elle est née d'Oslo, parce qu'avant, on avait l'OLP. Et on a créé l'autorité parce que les Israéliens déjà avaient en tête de nous assiéger uniquement dans les territoires occupés qui sont devenus des Bantoustans occupés, OK? Sans Jérusalem-Est et même sans Gaza, puisqu'ils ont séparé Gaza de Cisjordanie. Mais je pense réellement que les étapes, elles se terminent de manière normale par l'évolution de la réalité. Il faut accepter le poids de la réalité dans une vie. On n'a pas besoin d'annuler. Elle s'est annulée elle-même, l'autorité palestinienne, par le développement de la réalité sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, vous voulez que Mahmoud Abbas signe, je me dissous, il ne peut pas. C'est trop lui demander, c'est injuste de lui demander. L'histoire dira ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, mais il faut à tout prix que les choses aillent jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est là où on arrive aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils vont aller vers une annulation qui va se cacher derrière le prétexte de Jérusalem-Est, mais en réalité, qui vient de la débandade au sein du corps politique palestinien, qui est aujourd'hui, lui aussi, dans une grande détresse, pas entre laïcs et religieux, parce que je pense que les religieux en Palestine vraiment sont minoritaires, même Hamas est minoritaire. Hamas a été élue en 2006 comme une sanction contre l'autorité. Elle serait élue de nouveau s'il y avait maintenant aussi comme une sanction, mais je ne perçois pas la société palestinienne, que vous connaissez bien puisque vous organisez des voyages, on n'a pas de parti religieux fanatique qu'on voit côté israélien parce que toute la pratique est différente dans les milieux religieux. Mais bon, trop compliqué à développer ici, ce sera un autre sujet pour une prochaine fois. Mais avant, je ne voudrais pas dire que c'est parce qu'il y a cet éclatement des partis politiques et du parti qui a été le mien pendant 30 ans de ma vie, qui est le Fatah, veut dire que ça va mal. Non, je pense réellement qu'il y a, comme je dis, des mutations d'une très grande importance, pas seulement sur le plan palestinien, mais sur le plan israélien, sur le plan arabe, sur le plan moyen-oriental, sur le plan mondial. Et donc, il faut regarder aussi qu'il y a des changements sur le plan mondial qui sont très importants. Le premier, c'est que nous avons beaucoup souffert de l'administration Trump, énormément, parce que le déménagement de la capitale à Jérusalem, le feu vert pour les annexions, la légitimation des colonies comme étant quelque chose qui n'est pas légal, tous les feux verts donnés à Israël pour faire ce qu'elle veut, pour annexer, laquelle annexion continue, même si les États arabes qui ont fait la paix avec Israël prétendent qu'elle a été suspendue, elle n'a pas été suspendue. Mais je dirais que la défaite de Trump, la débandade de Trump, est quelque chose qui est très important chez nos alliés, parce que nous avons des alliés aux États-Unis qui sont ceux qui ont eu la peau de Trump, que ce soit les militants du Parti démocrate ou les mouvements sociaux, Black Lives Matter, J Street, les universitaires, les intellectuels, tout notre cher candidat au moufle, comment il s'appelle, Sanders, le génial, qui hier a été encouragé les militants de Amazon de faire leur syndicat. Il y a un vrai mouvement dans la société américaine et ce sont les alliés des Palestiniens et nous le verrons au fur et à mesure. Et donc je pense réellement que la défaite de Trump, la manière dont elle est arrivée, pourtant elle avait toutes les cartes en main, a donné une genre de resurgence, de renaissance d'un mouvement de gauche. C'est pas Biden le mouvement de gauche, mais c'est les élus au Congrès et au Sénat. Et si on voit combien Sanders, tout en n'étant plus un élu, compte dans les mouvements sociaux, puisqu'il a été encouragé les syndicalistes de Amazon, combien cela considère que la Palestine fait partie de leur agenda. J Street, tous les mouvements juifs progressistes qui ne se reconnaissent absolument pas dans Netanyahou, ni dans AIPAC, qui est le lobby le plus pro-Likoud, se reconnaissent dans des mouvements comme Black Lives Matter et comme des mouvements de Palestiniens. Parce que maintenant, vous avez plusieurs Américains d'origine palestinienne, en particulier des femmes, élues au Congrès, au Sénat, nommées à la Maison-Blanche, au State Department aux affaires étrangères américains. Et je pense qu'il faut beaucoup travailler avec ces gens-là. Nous sommes rentrés, pour moi, dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère qui a mis Oslo à la poubelle, elle est, ça va paraître peut-être étrange pour nos amis qui nous écoutent, mais pour moi, elle est déterritorialisée. Ça veut dire qu'on a tellement voulu enfermer les Palestiniens dans des frontières. Celle de l'autorité palestinienne, ça veut dire Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est qu'on a enlevé puisqu'on n'a pas encore négocié le statut de Jérusalem-Est, mais dans chaque village, dans chaque camp, puisqu'il y a des frontières partout, on disait, que les Palestiniens veulent s'affranchir des frontières. Ils n'ont plus le sentiment que les frontières leur donnent un sentiment de sécurité. Donc pourquoi vouloir une frontière nationale? Ils sont redevenus diasporiques. Alors il y a une partie bien sûr qui restera en Palestine, il faut qu'elle reste parce que c'est elle les racines de ce que est notre mémoire et notre patrie et notre histoire. Et ceux-là font un travail remarquable et je tiens en particulier à parler du travail du musée palestinien qui toutes les semaines, et moi je suis devenue une spécialiste de Zoom et de Skype, je suis en live les conférences et les expositions organisées par la jeune équipe dirigée par Adel Al-Haïdi au musée palestinien de Birzeit, qui parle de l'histoire culturelle, de l'histoire artistique, de l'histoire de Jérusalem, et qui redonne aux Palestiniens, mais avec une approche beaucoup plus moderne sur comment créer un narratif commun des Palestiniens, sur d'où ils viennent. Et ça remonte au siècle dernier. Et je trouve que ce travail-là n'est fait nulle part ailleurs. Et il est très important parce que ce narratif qu'on retisse et qu'on remet, je veux dire, dans l'agenda, on donne des bourses, le musée donne des bourses aux chercheurs pour faire le travail de recherche et faire le travail d'iconographie. Et je trouve que ce travail-là, ça veut dire qu'il n'est pas limité à un territoire, est repris par la diaspora palestinienne. Nous sommes, comme les Israéliens, comme par hasard, on revient aux frères jumeaux, la moitié du peuple palestinien, 6 millions, sont diasporiques. Moi, je suis un premier exemple. Lias Sambar est un autre exemple. Beaucoup de ceux que vous connaissez comme Palestiniens ne sont pas en Palestine, n'ont jamais habité la Palestine, puisqu'ils sont nés avant 48 ou juste en 48 et 49. Lorsque je rencontre ces Palestiniens de la diaspora, qu'ils soient des professeurs d'université, des artistes, des peintres, des conférenciers, je suis abasourdie. Et souvent, je les rencontre grâce aussi au fait qu'il y a maintenant les réseaux sociaux et surtout les contacts par Zoom et par Skype qui permettent de faire des conférences où j'écoute ce qu'ils disent. Et donc, je dirais qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette phase historique. Moi, malheureusement, j'appartiens à l'autre phase historique. Ça veut dire à la phase où ce qui réunissait le narratif palestinien était l'idéologie. Ça veut dire le nationalisme, et au sein du nationalisme, comme tous les mouvements de libération, les marxistes, les maoïstes, les islamistes, les libéraux, les bassistes. Ça, chez les jeunes palestiniens d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Ils ne se reconnaissent pas dans des partis politiques. Ce qui les réunit, c'est leur culture, c'est leur narratif, leur histoire. Comment ils perçoivent qu'ils soient habitants de la Californie aux États-Unis ou Dubaï dans le Golfe ou le Liban dans un camp de réfugiés ou un camp de réfugiés à côté de Hébron, ils ont la même vision de leur passé, de leur mémoire, et ils sont en train de réaffirmer leur aspiration à un statut nouveau, mais ils ne sont plus obsédés par un État, deux États, trois États, confédération, on va mettre la frontière. J'ai toujours dit, la question de Palestine n'est pas une question classique de guerre entre deux États et une armée et une autre armée, et pas une question de frontière. C'est une question beaucoup plus profonde parce qu'elle parle de la possibilité ou la non-possibilité de ces deux peuples d'exister en se respectant, en se reconnaissant. Maintenant, comment ils vont le faire? Dans quelle forme? Il faut la recréer parce que je ne pense plus qu'on a aujourd'hui malheureusement la possibilité ni de parler de deux États, ni même de parler d'un État, puisqu'il faut savoir si les Israéliens vont vouloir. C'était aujourd'hui hors de question avec la majorité qui a voté en Israël. Mais les Israéliens aussi vont changer. Et donc, je crois que pour moi, l'avenir de la Palestine que je vois, puisque tu me demandes est-ce que la Palestine a un avenir, c'est d'investir sur les gens, sur la population, pas sur les institutions. Sûrement pas sur la diplomatie qui a montré sa lâcheté. Alors, la Cour pénale internationale est un immense succès. Tu as entendu, toi, beaucoup de gens de l'Union européenne saluer ce succès ? Tu as déjà l'Allemagne, tu as déjà l'Autriche, tu as déjà la Hongrie qui ont dit que la Palestine n'avait pas le droit. Le procureur et les juges disent qu'elle a le droit puisqu'elle a adhéré au statut de Rome. Et ces messieurs des gouvernements de ces pays-là disent non, elle n'est pas un État dans le sens classique du terme. Ce qui est ridicule, c'est uniquement pour faire plaisir à Israël qui est très inquiète parce que la décision de la Cour est très importante, non seulement pour les Palestiniens, mais même pour la crédibilité de la Cour. Donc, je dirais que, pour moi, la nouvelle phase de la Palestine, et je veux le dire aux militants en particulier, parce que la France compte beaucoup de militants qui, de tout cœur, s'intéressent à la Palestine, ont investi. Surtout, ne pensez pas que les Palestiniens sont vaincus. Ils ne sont pas vaincus. Cette phase est vaincue. La phase d'Oslo est vaincue. Mais nous retrouvons dans une autre phase où nous avons tous les ingrédients d'une renaissance peut-être encore plus belle parce qu'elle est moins liée à un nationalisme fanatique. Okay? Les Palestiniens se sentent citoyens du monde. Et dans ce statut de citoyen du monde, regardez le nombre de galeries modernes d'art contemporain qu'il y a aujourd'hui en Cisjordanie à Jérusalem-Est. Regardez le nombre d'écrivains qui sont publiés dans toutes les langues du monde, inclus des Palestiniens d'origine, des Américains d'origine palestinienne en anglais, des Français d'origine palestinienne en français, des Anglais d'origine palestinienne en anglais. Il y a comme si, en perdant cette terre, ils ont réinvesti sur leur identité, mais avant tout culturelle et mémoriale. Et je pense que ceci est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir. Et comme je pense que nous sommes entrés sur le plan mondial dans une nouvelle ère, l'ère d'un universalisme, inclut d'ailleurs celui des moyens techniques de communication, et surtout chez les jeunes. Les jeunes ne te disent pas « je suis français, je suis italien, je suis espagnol », ils te disent « je m'intéresse à ça » ou « je m'intéresse à ça » ou « je suis impliqué dans ce combat et pas dans l'autre combat ». Et les Palestiniens sont pareils et ils ont une richesse inouïe à investir. Et donc, je les appelle à s'ouvrir au monde, ces Palestiniens, qui ont beaucoup profité de leur statut de réfugiés à travers le monde parce qu'ils ont acquis aussi les cultures des pays qui les ont accueillis, que ce pays soit arabe, comme le Liban, la Syrie ou la Jordanie, ou canadiens, ou américains, ou français, ou britanniques, et ça les a beaucoup enrichis. Et j'invite le monde à s'ouvrir vers eux. Et je pense qu'investir, à les soutenir pour qu'ils continuent à étudier, à pouvoir voyager, à pouvoir entrer dans des entreprises intéressantes, à se brancher sur les mouvements de jeunes dans le monde entier, sur l'écologie en particulier, mais aussi la démocratie et la citoyenneté, est une chose importante. Pour moi, c'est ça la fonction de la solidarité avec la Palestine, avant tout. Parce que la solidarité avec les institutions, ce n'est pas l'affaire de nos amis, c'est l'affaire des Palestiniens. Et pour le moment, elle n'est pas très brillante avec l'autorité palestinienne. Donc, il faut continuer à investir dans les citoyens et les citoyennes palestiniennes en Palestine et dans la diaspora. Rappelez-vous que ce mouvement national, de 48 à 64, c'est la diaspora qui l'a réalisé, l'OLP, n'est pas une réalisation des citoyens qui sont restés sous occupation militaire. Les Palestiniens d'Israël sont arrivés à créer des partis politiques qui, dans la dernière Knesset, avaient 15 membres, aujourd'hui malheureusement que 6 parce qu'il y a une défection des islamistes, ce qui rend les choses claires au moins, mais surtout les réfugiés de la diaspora. Et ces réfugiés ont un potentiel extraordinaire, surtout s'ils sont soutenus par leurs amis dans le monde entier, et ils sont très nombreux, ces amis de la Palestine dans le monde, et je voudrais leur rendre hommage pour tout ce qu'ils font depuis des années.
الفلسطينية والبندقان رماكوا بالصهيونية جبت حمامكوا الغمام يا فلسطينية والبندقان رماكوا رماكوا بالصهيونية جبت حمامكوا حماكوا يا فلسطينية وانا بدي اسافر حيداك وحيداك ناري بايديا وايديا تنزل معاكم على راس الحية وتموت شريحة هناكوا يا فلسطينية والبندقان رماكوا بالصهيونية تقتل حمامكوا يا فلسطينية وانا بدي اسافر عينك وناري بايديا وايديا تنمعاك وعلى راس الحية وتموت شريحة يا فلسطينية والغربة طالت كفاية والصحراء أنت من اللاجئين والضحايا يا فلسطينية والغربة طالت كفاية والصحراء أنت من اللاجئين والضحايا والأرض حنت للفلاحين والسقايا والثورة غاية والنصر أول خطاك والله يا فلسطينية والبندقان رماكوا رماكوا بالصهيونية تقتل حمامكوا يا فلسطينية وانا بدي اسافر حيداك ناري بايديا وايديا تنزل معاكم على راس الحية وتموت شريحة هناكم يا فلسطينية والثورة هي الأكيدة بالبندقية نفرض حياتنا الجديدة يا فلسطينية والثورة هي الأكيدة كيدة بالبندقية نفرض حياتنا الجديدة والسكة مهما طالت وباتت بعيدة مد الخطابي هو اللي شايف معاك ومعاك يا فلسطينية والبندقان بالصهيونية تقتل حمامكوا حماكوا يا فلسطينية وانا بدي اسافر عيداكوا ناري بايديا وايديا تنزل معاكوا على راس الحية وتموت شريحة يا فلسطينية بتنام عليكوا البشارة بالنصرة طلعة من تحت 100,000 غارة فلسطينية بتنم عليك البشارة بالنصرة طلعة من تحت 100,000 غارة والشمعة ولع والأمريكان بالخسارة دول راجعين حيارة قبل ما يحصل حيداك إن شاء الله يا فلسطينية والبندقان رماكوا بالصهيونية تقتل حمامكم حماكوا يا فلسطينية وانا بدي اسافر حيداك ناري بايديا وايديا تنزل معاكم اي والله على راس الحية وتموت شريحة هناكوا على راس الحية وتموت
Radio Campus.
C'est quand même pas mal la politique, hein.
Ah, c'est pas inintéressant, hein.
Ah oui.
106,6.
Ma vision des choses, elle est stimulée par l'échec des négociations de paix. Ceux qui ont préféré un État palestinien ou des droits nationaux, est-ce qu'ils pensent vraiment que dans la conjoncture actuelle, avec le genre de gouvernement qu'Israël vient d'élire, que vraiment, aujourd'hui, il y a une possibilité pour les Palestiniens d'arracher un à Israël dirigé par le gouvernement actuel et celui qui viendra même s'il y a une cinquième élection, par les États arabes qui ont déjà fait en grande partie défection avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Arabie saoudite et le Maroc et le Soudan, par l'Union européenne qui est d'une telle lâcheté qu'elle crie sur tous les toits que la seule règle c'est celle du droit international et de la justice et qui n'est même pas capable de soutenir la procureure de la CPI pour le courageux combat qu'elle a voulu mener et qui va être remplacé par son successeur en juin prochain. Et ils ont besoin, la Cour a besoin d'un soutien politique parce que les Américains, les Israéliens ne sont pas membres au tribunal. Et donc, ils ont déjà annoncé qu'ils rejetaient non seulement l'enquête sur les pratiques israéliennes, mais ils ont très peur qu'on fasse la même chose sur les pratiques américaines en Afghanistan. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas signer le traité de Rome. Et donc, mon constat, c'est que, étant donné la réalité, il faut la voir, la réalité, c'est qu'il n'y aura pas de droit palestinien, ni demain, ni après-demain, parce qu'il n'y a pas de diplomatie internationale. Je suis de ceux qui pensent, comme mon mentor dans l'affaire, qui est Monique Chemillier-Gendreau, c'est qu'il y a une débâcle des institutions multilatérales internationales. Et que nous ne pouvons compter ni sur les Nations Unies, ni sur l'Union européenne, ni sur la Ligue arabe pour venir nous aider. Et nous sommes dans une situation où nous sommes sous la botte de l'occupation militaire depuis 54 ans. Donc, comment vous allez arriver à avoir les droits nationaux et les droits de citoyens, les droits civils, etc. C'est parce qu'il y a ce constat de ce que j'ai appelé l'échec de la phase d'Oslo qui avait promis un État et des droits et des institutions qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait après. Et moi, je réfléchis en regardant la société palestinienne. Je ne réfléchis pas en l'étudiant dans les livres. Je réfléchis en l'étudiant dans son expression quotidienne, de par sa pratique politique, ce qui se passe dans les universités. Je suis membre de plusieurs organisations universitaires, dont l'université de Birzeit au conseil d'administration. Je suis très branchée sur les chercheurs parce que je travaille avec l'Institut des études palestiniennes, dont le siège est à Ramallah. Et je connais tous les mouvements féministes qui se battent et qui sont très forts. Et j'ai une grande relation avec tous les mouvements sociaux de la diaspora qui sont très actifs dans leur appartenance à la Palestine. Mais ils ont l'humilité de dire « Je ne peux pas voir aujourd'hui quel va être réellement l'aboutissement sur le plan territorial ». Deux États, il faut être aveugle pour penser qu'ils peuvent se faire aujourd'hui avec le nombre de colonies qui ont été créées sur là où devait être l'État palestinien selon les accords d'Oslo. Et personne n'a empêché ces colonies de se faire là, plus les routes militaires et les industries créées. Et le projet de continuer à annexer avec un gouvernement israélien qui peut être dirigé par Naftali Bennett, qui lui a déjà annoncé il y a 2 ans qu'il voulait tout annexer. Et donc, je n'ai pas proposé le narratif et la culture et le dynamisme de la société et l'affranchissement des frontières, parce que soudain, j'ai pensé que je n'aime pas les frontières. Mais parce que je lis une réalité où il n'y a pas aujourd'hui de possibilité objective de gagner le combat diplomatique, ni au niveau palestinien, de la diplomatie de l'autorité palestinienne, qui n'en a pas une vraiment, ni au niveau de la diplomatie arabe qui s'est scindée très profondément entre ceux qui ont normalisé avec Israël sans rien demander en retour. S'ils avaient au moins demandé en retour quelque chose pour les Palestiniens, on aurait pu dire, voilà, ils ont obtenu plus que les Nations Unies. Ni l'Union européenne, qui a passé 20 ans à financer des projets de développement qui étaient bombardés, détruits par Israël et qu'elle n'osait même pas, elle, prendre une sanction contre Israël. Et donc, les Américains, mais Biden, avant de s'attaquer au dossier du Proche-Orient, il a des priorités. Il veut rétablir l'accord avec l'Iran sur le nucléaire. Il veut s'occuper de la Chine, qui lui pose beaucoup de problèmes. Le dernier d'entre eux, c'est que soudain, les Chinois se réveillent. Ils veulent une conférence internationale sur le Proche-Orient. Ça, c'est la dernière invention chinoise. C'est pas sérieux, cette proposition. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant qu'il y ait des pouvoirs internationaux israéliens, palestiniens et arabes capables d'arracher des droits nationaux et une souveraineté sur le territoire? Qu'est-ce qu'on fait? On se croise les bras? On se tire une balle dans la tête parce qu'on est désespéré? Non, on investit dans les citoyens et les citoyennes qui, eux, ne se sentent absolument pas fragiles. Vous savez, quelquefois, le désespoir, il produit du courage, il produit de la force. Si vous voyez comment la société palestinienne se bat, vous n'allez pas me dire que vous la trouvez désespérée. Elle est lucide, elle est sans illusion. Dans le pire des cas, comme a dit, je ne sais plus qui, Dominique, elle a raison, une des raisons pour laquelle je suis contre les élections, c'est qu'elles ne permettent pas aux réfugiés de l'extérieur de voter. Parce que pour voter là où il y a les plus grandes communautés de réfugiés, ça veut dire la Jordanie, la Syrie et le Liban, ni le gouvernement jordanien, ni le gouvernement syrien, ni le gouvernement libanais n'accepteraient qu'il y ait des élections de ce qu'ils appellent des étrangers qui sont chez eux. Les seuls qui ont donné une vraie nationalité, c'est les Jordaniens, mais pas à tout le monde. La grande majorité continue à avoir des laissés-passer pour réfugiés palestiniens, Jordanie, Syrie ou Liban. Et donc, ils ne votent pas. Ça, ce serait pour le vote du Conseil national palestinien, mais il ne peut pas avoir lieu à cause de l'attitude des gouvernements de ce qu'on appelle les pays d'accueil. Les réfugiés, après les paysans palestiniens avant la création de l'État, avant la grande révolte arabe des paysans et de Azzedine al-Qassam, il y a eu la période où il n'y a pas eu de révolte, mais c'est les réfugiés qui ont développé les organisations du Fatah, du FPLP, du Front démocratique, du Front populaire, des communistes. C'est eux qui ont fabriqué l'OLP. L'OLP n'est que le parapluie de tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous revenons. Après, il y a eu Oslo, où on a soi-disant dit que les seuls Palestiniens